à ouvrir votre Bible en 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. Et continuons notre progression dans l'étude de cette lettre. 1 Pierre, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 8. Alors, normalement, Frère Marcel avait déjà étudié le verset 8 jusqu'à 12. Nous allons juste lire et aller jusqu'au verset 17. Et notre méditation ce matin se penchera sur des versets 13 jusqu'au verset 15. Mais lisons à partir du verset 8. Il y dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ, soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien, qu'en faisant le mal. Prions. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous conduises dans ta parole et que tu nous illumines par ton Esprit Saint afin que nous la saisissions. Et surtout que nous y soumettions pour la gloire de ton nom. Amen. Il ne vous aura pas échappé que l'hostilité à l'égard de l'Évangile est de plus en plus grande, hein, dans le monde. L'Évangile a toujours été un peu reçu parfois avec une certaine hostilité, hein. Et parfois l'hostilité est ouverte, comme dans certains pays, hein, c'est clair, c'est net. Et puis d'autres fois l'hostilité est couverte un peu, hein, mais elle n'est pas moins parfois paralysante pour les enfants de Dieu. La foi, nous dit-on, doit être circonscrite au domaine du privé. Hein, vous avez déjà entendu cela. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez en termes de religion, mais du moment que lorsque vous quittez chez vous, vous laissez vos convictions à la maison. Et on a l'impression que parfois ceux qui disent ça cherchent à enfermer, emprisonner ceux qui les dérangent pour pouvoir donner libre cours un peu à ceux qui les arrangent. Parce qu'il y a d'autres choses, d'autres convictions, d'autres modes que l'on a, que l'on peut aisément répondre. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons vivre. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Et je crois, on peut dire que peut-être que les jours qui sont devant nous ne sont pas si roses que cela, hein. Donc la foi chrétienne, bien sûr, est mise à rude épreuve. Et les destinataires de l'épître de Pierre ici connaissaient une hostilité bien ouverte, hein. L'apôtre Pierre, cette lettre parle vraiment de la souffrance des chrétiens. Il dit, vous êtes étrangers et voyageur, hein. Donc il parle de souffrance, vous voyez comment le verset 17 que nous avons lu s'est terminé, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et malgré cette hostilité, ils avaient pour mission, ce que nous avons lu au chapitre 2, de faire connaître, d'accord, d'annoncer, verset 9, d'annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière, au sein d'un monde qui est hostile. Et juste après avoir annoncé cet objectif, cette mission, on pourrait dire, des chrétiens, l'apôtre Pierre leur demande de bien se conduire au milieu des païens, d'être soumis aux autorités, d'être soumis aux parents, au patron d'un caractère difficile, à la femme qui a un conjoint non converti, de se soumettre. Et voilà. Et tout ça sont des situations qui sont difficiles à vivre. Et c'est un appel ici à témoigner dans un monde hostile. La perspective de la souffrance, pour le croyant, peut être décourageant. Et ce que nous avons lu, des versets 8 jusqu'au verset 17, on voit que l'apôtre Pierre essaye d'encourager à faire ce qui n'est pas naturel, à ne pas faire ce qui est naturel. Il dit, verset 8, voyez, « Enfin, soyez tous animés des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point, quoi, mal pour mal. » Lorsque l'on souffre, on a envie de rendre le mal pour le mal. Et peu importe qui nous fait souffrir. Si c'est un frère, ou si c'est le monde, si c'est le patron, si c'est le gouvernement, ou si c'est un mari inconverti, on a envie de rendre le mal pour le mal. Mais parfois aussi, lorsqu'on voit le mal se répandre en tant qu'enfant de Dieu, on a envie, voilà, que tout cela cesse. Et on peut, vis-à-vis de ceux qui sont hostiles, avoir une attitude vindicative, où on cherche à se venger, où on cherche à parler mal, comme on voit ici dans le verset 10, où il dit qu'on doit préserver la langue mâle et les lèvres des paroles trompeuses. Donc la perspective de la souffrance peut amener des réactions qui ne sont pas les réactions que l'on, en tant que chrétien, on devrait avoir. Et parfois, elle peut amener aussi à ne pas accomplir sa mission de témoin de Christ. Et c'est ce qu'on voit dans la section que nous avons lue, où l'apôtre Pierre dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Voilà, il faut toujours être prêt à témoigner. Et donc le titre du message ce matin, c'est le témoignage efficace au sein de l'hostilité. Comment dans la souffrance, dans les difficultés, dans l'opposition, dans l'hostilité, et nous connaissons une certaine hostilité, le croyant est amené à témoigner efficacement. Et je crois que Pierre va dire deux choses, va donner deux choses à savoir à ses lecteurs, et puis deux choses à faire. Il y en a plus, mais je vais m'arrêter que sur les deux, puisque le verset 16 et les autres, on verra une autre fois. Donc deux choses à savoir. Premièrement, il dit, c'est le verset 13, si vous regardez le verset 13, il dit « Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ?» Voilà, il dit, voilà, faites le bien, et toute la lettre consiste à dire « Faites le bien, pratiquez le bien », et puis il dit « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ?» Et donc, il souligne ici une chose, à savoir, c'est que la passion pour le bien désarme l'hostilité. La passion pour le bien désarme l'hostilité. Quand il dit que vous êtes zélé, vous êtes passionné, engagé à faire ce qui est bien. Et il semble dire ici que lorsque l'on est zélé pour le bien, en général, on n'est pas maltraité. Alors peut-être vous dites oui, mais dans l'expérience on a l'impression que c'est plutôt l'inverse. Mais Pierre pose une question, hein. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Il attend une réponse, et évidemment la réponse qu'il attend, c'est quoi? C'est, comme la question est posée, c'est personne. C'est une question rhétorique. Hein. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Ben, personne. Donc il est en train de dire qu'il y a un principe ici qui veut que, en général, quand on fait le bien, ce qui est droit et qu'on est engagé à faire le bien, eh bien, on n'est pas maltraité. On n'est pas maltraité. Personne ne maltraitera quelqu'un qui fait le bien. Et il cite, il dit ça là, après avoir cité le psaume 34. Hein, les versets que nous avons lus du verset 10 au verset 12 sont une citation du psaume 34, versets 13 à 17. Et il dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux, il dit, si quelqu'un veut être tranquille, ça qu'il est en train de dire ici, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire le bien. Ça qu'il dit. Il dit qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Voilà, quelqu'un qui veut mener une vie tranquille doit apprendre à être zélé pour le bien. C'est un principe, hein, général. Il ne dit pas que c'est quelque chose d'absolu, mais il dit que voilà, celui qui veut avoir une vie tranquille, des jours heureux, eh bien, il doit apprendre à ne pas dire. Et c'est intéressant de voir que pratiquement ce que l'apôtre Pierre considère comme mal ici, il dit pas qu'il ne cogne pas son voisin, etc., mais il parle de la langue, hein, du fait de parler, de dire des choses. Et par deux fois, hein, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Souvent, c'est ainsi que celui qui souffre est amené à pécher. Il ira rarement boxer les autres, mais il dira beaucoup de paroles. Voilà, de paroles. On peut le voir dans nos propre vie. Quand on est fâché contre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qui sort, ce sont des paroles. C'est la première manière par laquelle nous péchons. Et donc, faire le bien ici, pour Pierre ici, c'est déjà se garder de dire n'importe quoi ou de propager des paroles mensongères par nos lèvres. Donc, Pierre défend que, malgré les perspectives difficiles, le chrétien est quelqu'un qui doit aimer, rechercher les jours heureux et que s'il fait le bien en général, il ne sera pas maltraité. Proverbe chapitre 15 verset 1. Vous vous rappelez de ce verset? Il dit quoi? Une réponse douce calme la fureur, mais une réponse dure excite la colère. C'est un peu le principe, vous voyez ici, hein, quelque chose qui est bien va désamorcer, d'accord, le mal. Une réponse douce calme la fureur, mais, il dit, une réponse dure excite la colère. Et certainement, vous avez déjà fait l'expérience de cela. Hein. Quelqu'un arrive et puis il est fâché, il est furieux, il dit, oh, commence à monter en temps, et puis vous êtes... Vous demandez au Seigneur la grâce de rester calme, vous êtes calme, vous répondez calmement, et les choses s'amenuisent très rapidement. Mais si vous mettez de l'huile sur le feu, alors là, ça part, et puis ça monte, et puis ça part, et puis ça monte, n'est-ce pas? C'est un principe que l'on voit dans l'Écriture. Alors bien sûr, je le dis encore une fois, Pierre ne donne pas un principe général. Il ne dit pas que les chrétiens qui font le bien ne sont jamais maltraités, mais il dit qu'il y a un principe qu'on doit observer, qu'on doit savoir, c'est que la passion pour le bien, eh bien, désarme l'hostilité. Et la passion pour le bien désarme l'hostilité parce que Dieu veille à la protection des justes. Et c'est ce que dit le verset 12. Il dit qu'il s'éloigne du mal s'il veut vivre bien, qu'il s'éloigne du mal, qu'il garde ses lèvres des paroles trompeuses. Verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Voilà ce qu'il dit. Donc la passion pour le bien désarme l'hostilité parce que Dieu veille à protection des justes. Dieu est attentif pour délivrer ceux qui le craignent et ceux qui font le bien. Et dans le même psaume, il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Voilà comment Dieu veille. Donc, il peut dire que la passion pour le bien, donc c'est désarme l'hostilité parce que Dieu veille à la protection des justes. On peut dire que la passion pour le bien aussi désarme l'hostilité parce que c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Regardez au chapitre 2 et au verset 15, on avait considéré cela. Il est dit, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Il n'a pas dit quand c'est la volonté de Dieu, qu'en tapant les autres, hein, qu'en manifestant contre les autres, eh bien, vous réduisez les hommes au silence, ou quand vous commencez à donner des arguments. Non, il dit, c'est la volonté de Dieu, qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes insensés et ignorants. Ça veut dire que Dieu lui-même met dans, comment il le fait, on ne sait pas. Mais il met là un principe par lequel il dit que celui qui va pratiquer le bien dans sa vie, la justice, eh bien cela aura pour effet de réduire au silence les hommes ignorants et insensés. Et on peut dire aussi que la passion pour le bien désarme l'hostilité parce que Dieu a le pouvoir de changer aussi la disposition des hommes. Hein? Proverbe 16:7 dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, c'est-à-dire quand un homme agit justement, quand le chrétien sert Dieu, recherche la justice, il est passionné pour ce qui est juste et droit, eh bien il dit que Dieu dispose même le cœur de ses ennemis favorablement à son égard. Et puis il y a un autre passage qui dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline comme il veut. Dieu a le pouvoir de diriger les dispositions des cœurs. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et il dit, voilà, il peut, face à un ennemi, ses enfants, rendre ce cœur favorable, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Les cœurs étaient favorables à leur départ. Ils ont eu beaucoup de choses de la part des gens. Il a disposé le cœur. Et puis, il y a une illustration. Il y a de multiples illustrations de cette vérité dans la Bible, mais il y en a une. Vous rappelez dans Genèse chapitre 31, lorsque Laban poursuit Jacob. Jacob est parti avec Rachel, Léa, et puis Rachel avait emporté les petites figurines de son père. Et Laban, le père de Rachel, vient, il poursuit Jacob. Et il arrive auprès de Jacob, et il était pas content. On lui a volé ses figurines, et il arrive, et il dit à Jacob ceci, « Ma main est assez forte pour vous faire du mal. » Mais il n'a pas fait le mal, hein. Pourquoi il n'a pas fait? Vous savez ce qu'il dit après? Il dit, « Mais Dieu votre Père, il dit pas Dieu mon Père, il dit Dieu votre Père, m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien, ni en mal. » Il est parti avec l'idée qu'il va faire quelque chose. Je lui dis, attention à ce que tu vas faire. Ni bien, ni mal. Alors il peut dire, oui, je peux vous faire du mal. Mais il peut pas le faire sans que Dieu permette que quelque chose se passe. Dieu a dit, non, tu ne touches pas. Et voilà pourquoi il dit, je crois qu'on peut saisir cette pensée générale que la passion, comment, pour le bien désarme l'hostilité, parce que Dieu agit favorablement à l'égard de ses enfants et dispose le cœur même de ses ennemis à l'égard de ses enfants. Ça, c'est la première chose que Pierre souligne. La deuxième chose, je crois, qu'il dit au verset 14, il dit « D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. » Il dit que la souffrance pour la justice, c'est un privilège béni. Alors, on est d'accord, il ne dit pas au verset 13 qu'il n'y a jamais de maltraitance. C'est un principe général, on ne maltraite pas ceux qui font le bien. C'est comme l'apôtre Jean quand il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est un principe. C'est vrai, c'est un principe qui est vrai. Mais quand on regarde dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a des chrétiens qui pêchent, et le chrétien pêche. Et plus haut, le même apôtre Jean dit, si nous disons que nous ne pêchons pas, nous mentons. D'accord? Mais dans le principe. Le chrétien a le pouvoir, par l'Esprit de Dieu qui agit en lui, de ne pas pécher. Okay? Et donc c'est la même chose ici. Il dit, le principe, c'est que il n'y a pas de maltraitance envers celui qui fait le bien. Mais si vous souffrez pour la justice, il dit, et même si vous souffrez, c'est-à-dire vous faites partie de cette catégorie qui souffrez, donc qui n'êtes pas épargné, eh bien, vous devez savoir que vous êtes heureux. Et donc le verset 14, on pourrait dire, vient rééquilibrer ici le verset 13. Et ne laisse pas entendre aux chrétiens qu'ils seront jamais dans la souffrance. C'est pas l'évangile de prospérité ici, c'est l'évangile de la réalité. Hein. Donc de nombreux textes, bien sûr, soutiennent et anticipent cette souffrance des chrétiens. Jésus lui-même, il a dit, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans les synagogues, donc il parle à ses disciples, vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant les rois, pour servir de témoignage aux païens. Et l'apôtre Paul dit la même chose, il retourne à Lystre, à Antioche, il visite les églises, et il les fortifie, et il les exhorte à, acte 14 nous dit, à persévérer dans la foi en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations. Et on apprend même que l'église primitive a souffert de maltraitance, puisque dans acte chapitre 12, versets 1 et 2, il est parlé de Hérode, il dit, au même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. D'accord? Donc il y a des souffrances, mais il pourrait y avoir des souffrances. Et Pierre dit ici que la souffrance pour la justice, quand on souffre parce qu'on fait ce qui est juste devant Dieu, ça doit être considéré comme un privilège béni. Le chrétien, bien sûr, ne devrait pas s'attendre à l'absence de souffrance, mais quand il souffre, parce qu'il fait le bien, il doit savoir que c'est un privilège béni. Ici, Matthieu chapitre 5, verset 10, c'est certainement ce que Pierre a en tête lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». La même chose, persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et notre passage, il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera ou qu'on dira de vous faussement toutes sortes de choses ». Il dit même « Réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande ». Donc la souffrance pour la justice, il faut que le chrétien considère que c'est un privilège béni, parce que la Bible le dit. Et l'apôtre Paul disait « Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Dieu, en Christ, mais de souffrir pour lui ». Philippiens 1, verset 29, je crois. Il dit ça. C'est une grâce de souffrir pour Dieu. L'apôtre Pierre dit la même chose ici. On l'a lu au chapitre 2, verset 20. Il dit, quelle gloire y a-t-il de supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu. C'est-à-dire que vous souffrez parce que vous êtes vraiment reconnu comme un véritable chrétien. D'accord? Quand on vous maltraite, vous ne vous détournez pas de votre foi. C'est un véritable chrétien. Donc et c'est une grâce de pouvoir souffrir. Et il y a une récompense aussi pour cela, parce que Jésus le dit. Hein. Donc la souffrance est un privilège béni. Et le mot heureux, vraiment, ici, exprime que c'est un privilège ou un honneur. Il dit pas que c'est une joie dans un sens, on se réjouit pas parce qu'on a mal, simplement, mais il dit que c'est un honneur, c'est un privilège que de souffrir pour Christ. Donc ça, c'est la deuxième chose, pas être plus long là-dessus, la souffrance pour la justice est un privilège béni. Et puis, Pierre va dire deux choses aussi, donc ça, c'était les deux choses qu'ils doivent savoir, mais deux choses qu'ils doivent faire. Il y en a au verset 15, la fin du verset 14, et puis le verset 15, il dit, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Vous voyez là, il dit des choses à faire. Au début, il dit des choses à savoir. Qui vous maltraitera, etc. D'ailleurs, si vous souffrez, vous êtes pour la justice, vous êtes heureux. Et maintenant, il leur donne des choses à faire, des choses qu'il faut faire. Donc, ce sont des impératifs. Il dit, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec respect et douceur devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Première chose ici, c'est le troisième point ici. Il dit qu'il ne faut pas, qu'il faut avoir la crainte de Christ dans le cœur et que la crainte de Christ dans le cœur bannit la peur des hommes. Donc, il faut craindre, ayez crainte, sanctifiez Christ dans vos cœurs, ici, et vous n'aurez pas la crainte des hommes. N'ayez d'eux aucune crainte. Donc, Pierre présume ici en tant que chrétien, qu'en tant que chrétien, ses lecteurs, bien sûr, vont subir des menaces et ces menaces auront pour but de les effrayer et de les faire peur. Et que le plus grand danger qui guette le chrétien, c'est de se laisser intimider par les menaces. Se laisser intimider par les menaces. Aussi, il les encourage à ne pas craindre et à ne pas se laisser troubler. C'est ce qu'il dit. N'ayez d'aucune crainte et ne soyez pas troublés ici. Mais notons comment il les encourage. Il dit pas simplement, hé, les gars, courage. Voilà. Courage. N'ayez pas peur. Voilà. Quand j'étais malade, il y a un étudiant, la première vague du Covid, et il y a les étudiants ont appris cela. Il y a un étudiant qui m'a écrit et puis qui m'a dit ainsi, quelque chose comme ça, je résume, ainsi est faite la vie, professeur. Il a dit, courage. C'est gentil, mais quand vous souffrez ou que vous avez peur, que vous voyez arriver la menace de la mort, qu'elle est évidente, je parle ici pour les chrétiens à qui l'apôtre Pierre écrit, simplement leur dire, ne soyez pas troublés, ou courage ne suffit pas, ne suffit pas. Il faut beaucoup plus que cela. Et ce que Pierre fait, c'est qu'il dit d'abord, il dit, d'accord, n'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais, donc il dit ce qu'il faut faire à la place de cela, et c'est ce qu'il faut faire ici qui va permettre de ne pas être troublé, d'avoir du courage. Il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Autrement dit, il dit, lorsque la difficulté est là, la première chose que vous devez faire, c'est de sanctifier Christ dans vos cœurs. De sanctifier Christ dans le cœur. Et ce que Pierre fait ici, c'est une citation d'Ésaïe chapitre 8. Et on va regarder très rapidement un peu ce texte dans Ésaïe chapitre 8, parce qu'il prend le contexte. En général, quand les auteurs du Nouveau Testament font une citation de l'Ancien Testament, ils transportent le contexte avec ce qu'ils sont en train de dire. Donc ils choisissent, il faut vous rendre compte que les chrétiens de cette époque n'avaient pas, comme nous, de Nouveau Testament. Ils avaient que l'Ancien Testament. Donc quand Pierre leur dit ça, tout ce qu'ils ont, c'est Ésaïe. Ils n'ont pas un Pierre, deux Pierres, etc. dans la main. Et donc on regarde dans dans Ésaïe chapitre 8. Alors, le contexte ici très rapidement, c'est, vous savez que depuis quelque temps, bien il y a deux royaumes, il y a le royaume du nord, le royaume du sud, Juda, avec le royaume du nord avec 10 tribus, le royaume de Juda avec 2 tribus. Et cela se passe à l'époque du roi Akaz, qui est roi de Juda, et qui voit une alliance entre le royaume du nord et puis les Syriens, d'accord, et ça représente une menace pour le royaume de Juda. Et si vous regardez au verset chapitre 7 et au verset 1, il dit, il arriva au temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Restine, roi de Syrie, monta avec Pekach, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vient dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm, et le cœur d'Akaz, le roi de Juda, le cœur d'Akaz et le cœur du peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Montrez comment ils avaient peur, hein? Ici. Alors, l'Éternel parle à Isaïe, au prophète Isaïe, et puis lui dit, va, étudie à Akaz, verset 4, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces bouts de tison fumant, devant la colère de Restin et la Syrie. Il dit, ce qu'ils ont dit, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Et puis à la fin, verset 9, il dit, mais si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Donc Dieu dit à Akaz, ne crains pas. Mais Akaz a peur. Akaz a peur. Et ce qu'il va faire, il va chercher à faire une alliance avec les Assyriens, d'accord, et s'associer à eux pour pouvoir combattre la coalition syro-israélienne du Nord. Et ce qui n'était pas la volonté de Dieu, parce que Dieu lui avait dit, ne crains pas, ça va pas se passer comme il a dit, pas du tout, etc. Mais il a peur. Il rejette, il fait semblant de croire en Dieu, mais il rejette ce que Dieu lui dit. Il s'associe quand même, il fait alliance avec les Assyriens. Et puis, Dieu dit que ces Assyriens sur lesquels ils se sont appuyés vont être les instruments de Dieu pour détruire Juda. Ici. Et c'est ça qu'on trouve, c'est là qu'on arrive à ce que Pierre récupère comme citation dans Ésaïe chapitre 8. Chapitre 8 et au verset 4. Verset 5, déjà il dit, l'Éternel me parla et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Restin et Remaïa, etc. Voici, le Seigneur va faire monter sur eux la puissance et les puissantes et grandes eaux du fleuve. Donc là, il parle du roi d'Assyrie, ici, qui va les détruire. Et puis, on arrive au verset 11, et Dieu parle à Ésaïe, et il dit, « Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit, de ne pas marcher dans les voies de ce peuple. » Verset 12, « N'appelez pas conspiration tout ce que le peuple appelle conspiration ou conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. » Là, on retrouve ce que Pierre est en train de dire. « Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés, car l'Éternel des armées, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. » Donc Pierre prend ce contexte ici où Akaz et le peuple ont craint, ont eu peur et ont été effrayés au point de ne pas même écouter ce que Dieu leur avait dit, et ils ont placé leur confiance dans les hommes à cause de leur crainte. Et Dieu parle à Ésaïe et il dit à Ésaïe en particulier que lui, il ne doit pas craindre comme ce peuple a craint. Il ne doit pas se laisser effrayer comme ce peuple a été effrayé. Mais ce qu'il doit faire, c'est le contraire de ce qu'Akaz a fait ici, c'est de sanctifier Dieu, l'Éternel, alors il n'a pas dit dans son cœur, c'est un peu Pierre qui l'agite, mais il doit sanctifier Dieu. Il dit, c'est pas le roi Akaz, le roi des Assyriens, c'est pas ces peuples qu'il faut craindre, c'est l'Éternel qu'il faut craindre et qu'il faut sanctifier. Et Pierre prend ce passage et il l'attribue, il l'applique à Jésus-Christ. Il dit, c'est Jésus-Christ qu'il faut craindre et pas les menaces de ceux qui sont hostiles à l'Évangile. Et juste entre parenthèses, vous voyez que Ésaïe parle de l'Éternel qu'il faut craindre, Yahweh, et Pierre parle de Jésus-Christ, dans le même passage. Pour Ésaïe, il s'agissait de qui parle sous la direction du Saint-Esprit, il s'agissait de l'Éternel, Yahweh, et pour Pierre, qui parle sous la direction du même Saint-Esprit, il s'agissait de Jésus-Christ. C'est un passage ici où on a un témoignage de la divinité de Christ, hein, qui est extrêmement bien marqué, où Jésus-Christ est appelé Yahweh, ici. quelque part. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse. Mais ici, Pierre dit, voilà, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Donc, pour ne pas craindre, il faut sanctifier Christ dans son cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Sanctifier Christ dans son cœur. Akaz n'a pas sanctifié l'Éternel. On pourrait regarder ce qu'il n'a pas fait pour comprendre ce que ça veut dire que sanctifier Dieu, sanctifier Christ dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas soumis à ce que Dieu avait dit. Il n'a pas considéré la parole de Dieu comme elle devrait être considérée. Il n'a pas considéré Dieu par-dessus tout. Il a fait confiance à ce qu'il voyait. Il a fait confiance à ses propres méthodes. Il n'a pas placé Dieu au centre. Et on peut dire que sanctifier Christ, c'est le traiter comme saint, le traiter comme au-dessus de toute chose, le vénérer, le considérer au-dessus de tout, lui faire une place complète dans le cœur, dans tout le siège de nos émotions, de nos pensées, de notre réflexion, qu'il doit être celui qui est placé, qui est à la première place. C'est d'abord ce qu'il dit que je dois considérer. Et pas ce que j'entends. C'est ce que sa parole me dit qui doit être considéré en premier. Sa parole est au-dessus de toute autre parole. Oui, sa loi est au-dessus de toute autre loi. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et il ne faut pas craindre de le dire. Il dit, si sanctifié, si vous mettez Christ à la place qu'il doit avoir, si c'est lui que vous servez, c'est lui que vous cherchez, si c'est sa parole que vous, à sa parole que vous voulez obéir, si ce qu'il dit, c'est la vérité et c'est ainsi que vous le prenez, vous n'aurez pas peur des hommes. C'est ça que ça veut dire, ici. Sanctifier Christ dans le cœur, c'est le craindre. Le craindre au point de croire à tout ce qu'il dit, par-dessus toute autre chose. Il est le Seigneur, celui qui règne, celui qui domine, celui à qui on prête allégeance, celui devant qui on s'incline en tout temps et en tout lieu. Et c'est ce que Jésus avait dit, et rappelez-vous à ses disciples, quand il leur a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu chapitre 10, verset 28. Il faut donc sanctifier Christ dans nos cœurs, car aucune menace humaine ne peut s'abattre sur l'enfant de Dieu sans la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il faut le sanctifier, le mettre à part. Et Dieu veut être sanctifié dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Rappelez-vous l'exemple avec Moïse. Lorsque Dieu dit à Moïse, tu parleras au rocher, et puis il sortira de l'eau. Moïse est allé, et puis il a frappé le rocher. Et puis il a dit à ce peuple, est-ce de ce rocher que je ferai sortir de l'eau? Et puis Moïse, à cause de cela, n'est pas entré au pays de Canaan. Et vous savez ce que Dieu dit plus tard? Moïse, quand il raconte lui-même, il dit que Dieu a dit, vous ne m'avez pas, il parlait de Moïse et Aaron, vous ne m'avez pas, quoi, sanctifié aux yeux du peuple. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste, Moïse a dit, j'ai parlé légèrement des lèvres. Ils ont juste parlé légèrement des lèvres. Ils n'ont pas fait exactement ce que Dieu avait demandé. Et Dieu a dit, vous ne m'avez pas sanctifié. Sanctifier Christ dans le cœur, c'est faire exactement ce qu'il nous commande. Sa loi, c'est notre loi. Et c'est celle-là à laquelle on doit se soumettre. J'ai trouvé, je vous avais déjà cité cet exemple, mais de ce réformateur qui s'appelait Hugues Latimer, qui était donc une des figures assez remarquables de la réforme en Angleterre. Il prêchait devant le roi Henri, il a été emprisonné d'ailleurs, et puis il prêchait devant le roi Henri VIII, et il était sur le point à un moment donné de dire quelque chose qu'il sait que le roi n'allait pas apprécier. Et il était dans un dialogue avec lui-même, intérieurement, et puis après il s'est mis à crier au pupitre, si j'ose dire. Latimer, il s'appelle Latimer. Latimer, Latimer, faites attention à ce que vous allez dire, car le roi est là. Et puis après un petit instant de pause, il a encore crié, Latimer, Latimer, faites attention à ce que vous n'allez pas dire, parce que le roi des rois est là. Et c'est exactement ça ce que Pierre dit quand il dit « Sanctifiez Christ dans vos cœurs et n'ayez pas crainte et ne soyez pas troublés ». Latimer dit « Je veux craindre le roi des rois ». Il est là, donc je dois dire tout ce qu'il me dit de dire, sans en enlever quoi que ce soit. Et peu importe si le roi humain est là, le roi des rois est au-dessus du roi humain, ici. Et c'était le cas de, je vous avais raconté aussi de John Knox, qui au XVIe siècle a été, lorsqu'on l'a enterré, les gens ont dit ceci, « Voici celui qui craignait tellement Dieu qu'il n'a jamais craint le visage d'aucun homme. » Si notre crainte de Dieu est grande, nous ne craignerons pas de menace. Ce que Pierre dit ici, il dit « Ne soyez pas troublés, ne craignez pas leur crainte qu'au temps d'Akaz, mais il dit « Apprenez à sanctifier Christ dans votre cœur. Apprenez à lui donner la place, à connaître sa parole, à l'aimer, à chercher à lui obéir en toutes circonstances. Et vous verrez que vous n'aurez pas crainte, la crainte des hommes. » Ça, c'est la première chose, la première recommandation qu'il lui donne. Et puis la seconde ici, je vais terminer avec celle-là. Il dit qu'il faut se préparer à répondre aux questions. Dans la souffrance, le chrétien doit se préparer à répondre aux questions. Étant toujours prêt, dit-il, je relis le verset entier, mais n'ayez d'aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Prêt à vous défendre avec douceur et respect. Le chrétien doit être toujours prêt, il doit se préparer à répondre aux questions qui lui sont posées. Pierre présume ici que la manière de vivre d'un chrétien au sein de la difficulté suscitera des questions. Alors, le chrétien doit s'attendre à la moquerie, doit s'attendre aux critiques, mais aussi doit s'attendre parfois aux questions qui lui sont posées. Et il doit être préparé à répondre aux questions qui lui sont posées. Pierre dit que celui qui sanctifie Christ dans son cœur vit au sein de la souffrance et des menaces d'une manière telle que parfois les gens vont dire, mais dis-moi, pourquoi tu fais pas comme tous les autres? Pourquoi tu réagis comme tu réagis? D'où te vient cette paix, cette espérance? D'où est-ce que cela vient? Et c'est ce que Pierre disait au chapitre 4, verset 4, par exemple, si vous regardez chapitre 4, verset 4, il dit verset 3, il dit « C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. » Aussi, verset 4, « Trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche ?» Et ils vous calomnient. Il y a des choses qui sont étranges, ils ne comprennent pas pourquoi vous ne faites pas comme tous les autres. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils calomnient. Mais il y en a qui vont poser des questions, dit Pierre. Et à ce moment-là, il ne faut pas être pris de panique. Il faut être prêt à répondre aux questions. Et il dit même à défendre son espérance. Prêt à vous défendre avec douceur de quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Celui qui vous demande, alors raison ici c'est une parole, celui qui vous demande d'exprimer par une parole pourquoi vous agissez comme vous agissez. Il faut lui répondre, dit l'apôtre Pierre. Il faut défendre, et le mot c'est apologia, qui a donné le mot apologie. Il faut faire une apologie, il faut donner une justification de l'espérance qui est en vous. Bien sûr, il ne s'agit pas de partir dans de la controverse théologique, c'est pas ça qu'il dit. Il dit pas qu'il faut pouvoir expliquer la raison de la souffrance et toutes ces choses qui... Non, c'est pas du tout cela. Il parle simplement de pouvoir rendre compte de l'espérance qui est en vous. de votre manière de vivre, de votre foi. Pourquoi vous croyez ce que vous croyez? Pourquoi vous réagissez comme vous réagissez? Pourquoi vous parlez comme vous parlez? Pourquoi vous pensez comme vous pensez? Pourquoi vous espérez comme vous espérez? Il faut pouvoir répondre à cela. Un peu comme les interlocuteurs de Paul lorsqu'il était à Athènes, ils sont venus le voir, ils nous pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Qu'est-ce que c'est que ça? Raconte-nous un petit peu ce que c'est que tout cela. Répondre de cette espérance à ceux qui vous questionnent sur votre foi, de cette espérance que vous avez particulièrement en temps de crise politique, de crise économique, et puis aujourd'hui de crise sanitaire. Avez-vous peur comme tout le monde a peur ou avez-vous une confiance que vous montrez? Si tel est le cas, eh bien, parfois la question, elle surgit ici. Et il faut répondre. On ne peut pas se contenter de dire « j'espère en Dieu ». D'accord? Parce que j'espère en Dieu. Et puis après tout, ça ne s'explique pas, ça se vit dans le cœur. Un point, c'est tout. On ne peut pas répondre comme ça. Pierre dit non, il faut donner raison, il faut expliquer de manière intelligible pour qu'ils comprennent quelle est la raison de votre espérance. Tout chrétien donc doit être capable de fournir, tout chrétien doit être capable de fournir les raisons de l'espérance qui l'anime. Être capable de dire pourquoi il fait comme il fait. Et Pierre dit ici que le chrétien doit être toujours prêt. Donc il y a une préparation à avoir. Il ne doit pas être dans l'improvisation. Il doit avoir anticipé les choses. Un peu comme quand on va enseigner aux enfants aussi dans la classe, hein, des fois, c'est pas, les moniteurs, mais ils font certainement la même chose. Hein. Eux, ils ont le droit. Ici, vous n'avez pas le droit de poser de questions. Hein. Enfin, on n'en pose pas. Mais dans la classe, les enfants, ils posent des questions, n'est-ce pas? Et que fait le moniteur quand il prépare sa leçon? Il essaie au maximum d'anticiper les questions qui pourraient venir. Ah, peut-être certains pourraient demander ça. Il prépare ça. Certains d'autres pourraient peut-être me poser cette question-là. Et il prépare cette réponse-là, ici. D'accord? Ils sont dans la préparation des questions qui peuvent venir. Et c'est pareil pour le croyant. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais Jésus n'a-t-il pas dit qu'il ne faut pas s'inquiéter et que... voilà, quand il nous donnera directement les paroles à prononcer. Il a dit ça dans un contexte bien particulier. Il a dit, Matthieu 10-19, c'est vrai, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas, on vous livrera, vous êtes livré, vous êtes emprisonné, voilà, et puis, vous êtes au tribunal, il dit, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, parce que ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Ça, c'est une circonstance particulière. Mais, dans le cas général, où les gens, simplement parce qu'on exprime notre foi, nous posent des questions, on ne peut pas être dans l'improvisation. Et ça ne marchera pas. D'accord? Ce que Pierre dit ici, c'est vraiment que le genre de réponse attendue par les incroyants quand ils posent ces questions nécessite que l'on soit prêt à y répondre et qu'on se soit préparé. Cela nécessite un minimum de connaissances. Donc il faut étudier, il faut écouter, il faut s'exposer à l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut savoir ce que l'on croit, pourquoi on croit ce qu'on croit. Les choses ont une raison. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui est suspendu en l'air, non, c'est quelque chose qui repose sur des fondements. Il faut les connaître, il faut les approfondir pour pouvoir donner une réponse intelligible à ceux qui nous questionne. Et il faut que la défense aussi soit, donc il faut qu'elle soit préparée, il faut qu'elle soit intelligible, il faut qu'elle soit attentionnée. Pierre dit, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Il ne s'agit pas d'être rentre dedans, de brusquer les gens, d'essayer de dominer par des arguments, mais simplement de répondre avec douceur, pas d'agressivité, et avec du respect. Alors le mot respect parfois est traduit par le mot crainte ici, ça peut être la crainte de Dieu, la vénération aussi pour Dieu, mais aussi le respect pour l'interlocuteur qui est en face. Plaider pour la vérité ne donne pas le droit de parler avec arrogance ou avec dureté. C'est le contraire. L'apôtre Paul aux Éphésiens disait qu'il faut professer la vérité dans l'amour et dans la charité. Et c'est comme ça que l'on va croître à tous égards. Donc, ce n'est pas parce que on parle de la vérité qu'on a le droit de chercher à dominer les autres. Absolument pas. Mais on doit parler avec beaucoup d'humilité, beaucoup de douceur, beaucoup de respect. La crainte de Dieu ne doit pas être perdue de vue lorsqu'on parle à ceux qui nous entourent. Donc, Pierre dit, vous devez sanctifier Dieu dans vos cœurs pour ne pas craindre. Et avec cela, vous devez aussi vous préparer à répondre aux questions qui pourraient vous être posées. Cela veut dire qu'il y a une obligation de résultat, une obligation de répondre aux questions qui nous sont posées. Et pour le faire, il faut vraiment se préparer. Donc, la passion pour le bien, on a vu, désarme l'hostilité, la souffrance pour la justice est un privilège béni. Le chrétien doit apprendre à craindre Christ pour bannir la peur des hommes. Et puis, il doit se préparer aussi à répondre aux questions. Quelques petits points d'application pour terminer. On voit dans tout ce que Pierre dit ici que la bonne conduite du croyant au milieu de la souffrance fournit des opportunités de témoigner. La bonne conduite, la passion pour la bonne conduite fournit des opportunités de témoigner. Pierre présume que des questions seront posées à cause de l'attitude même du croyant au sein de la souffrance. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qu'on peut souligner ici, c'est que l'espérance chrétienne repose sur une base rationnelle et pas irrationnelle. Pierre dit qu'il faut donner les raisons, les paroles qui peuvent expliquer notre espérance. C'est donc qu'il y a des raisons rationnelles, explicables, intelligibles à l'espérance chrétienne. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on croit et puis ça n'a pas, on ne sait pas par quel bout le prendre, absolument pas. La foi chrétienne, ce n'est pas un saut dans le vide, mais elle repose sur une révélation de Dieu. Elle est opérée par des actes dont les preuves historiques sont incontestables. La mort de Christ, la résurrection de Jésus-Christ, toutes ces choses sont des preuves historiques. Et l'espérance chrétienne est quelque chose de rationnel. On doit pouvoir l'expliquer à ceux qui nous demandent raison. Qu'est-ce que l'espérance, votre espérance, d'où vient cette raison que vous espérez? Nous devons pouvoir expliquer cela. Et puis, troisièmement, il est important pour chaque chrétien de se donner les moyens de défendre son espérance. Puisque la question nous sera posée, il est impératif de se préparer et de se donner les moyens de répondre. Puisqu'on doit répondre, eh bien, il faut faire tous nos efforts pour se préparer à répondre le plus clairement possible pour donner les raisons de l'évangile dans lequel on croit. On doit apprendre à l'avance à formuler les réponses. Ça veut dire préparer. On n'est pas en freestyle, hein, comme aiment dire les jeunes. Pas du tout. Celui qui n'a pas préparé ses réponses, les réponses ne viendront pas quand la question sera posée. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas sortir ce qu'on n'a jamais appris. C'est pas possible. On ne peut pas sortir un verset qu'on n'a jamais mémorisé. Si, Dieu peut faire des miracles à un moment donné, mais il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler pour que les choses puissent venir. Il faut mémoriser, il faut apprendre. Et c'est tout le rôle du catéchisme que nous sommes en train de faire. Si on n'a pas appris à synthétiser les choses, à avoir des réponses qui sont construites, on ne pourra pas les donner aux gens qui nous posent des questions. C'est pour ça qu'on apprend les choses. On doit les apprendre pour nous-mêmes d'une part, mais aussi afin d'être un témoignage auprès des autres. Et on se berce d'illusions, chers frères et sœurs. Si on croit que l'on pourra formuler une réponse claire à une question posée, si on n'a pas réfléchi à l'avance à la réponse. Il y a beaucoup de personnes qui croient, quelqu'un disait ça, qui croient savoir des choses jusqu'au jour où on leur pose la question sur la chose en question. C'est de penser, qu'est-ce que la foi? Si quelqu'un vous dit, qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est croire en Dieu, c'est... Pourquoi on hésite? Parce qu'on n'a pas appris à l'avance quelque chose de clair. D'accord? Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que la vie éternelle? Tu dis que tu es justifié. Qu'est-ce que la justification? Les gens peuvent poser ces questions. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de répondre. On peut pas dire, oh, quand tu seras chrétien, tu comprendras. Pour l'instant, tu peux pas comprendre parce qu'il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses, tu vois. Non, il y a des choses qu'on peut comprendre et qu'on doit expliquer aux gens. Mais on ne les comprendra jamais si on ne les apprend pas à l'avance et si on ne se prépare pas. Que le Seigneur nous aide vraiment à considérer ces choses, n'est-ce pas, à nous préparer, à ne pas avoir peur, à ne pas craindre, mais à chercher vraiment à sanctifier Christ dans notre cœur, à lui faire confiance par-dessus tout, malgré tout ce qu'on peut entendre, à ne pas être des chrétiens timorés, mais avoir le courage d'annoncer sa parole, parce que lui, il est au-dessus de tout. Être comme John Knox, qui craignait tellement Dieu qu'il n'a jamais craint aucun visage humain. Pas même le roi. Que le Seigneur nous fasse cette grâce. Que le Seigneur nous fasse la grâce aussi d'apprendre sa parole, de nous soumettre à sa parole, de la mémoriser, de chercher, d'aimer les gens qui nous entourent à un point tel que nous allons nous préparer pour répondre à leurs questions. Avec douceur, avec amour, avec humilité. Mais que ce soit notre désir le plus grand. Et donc je relis ces quelques versets. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Et je te prie que tu nous donnes de nous soumettre à ces choses. Seigneur, si nous voyons le spectre de la souffrance ou de la persécution, que nous sachions qu'il est urgent que nous apprenions à sanctifier Christ dans notre cœur, à nous préparer, à répondre aux questions qui pourraient nous être posées. Donne-nous de t'aimer, d'aimer ta parole. Donne-nous d'aimer aussi ceux qui sont autour de nous. Et Seigneur, d'agir envers eux avec plein de douceur et de respect et d'humilité. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.